VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du jeudi 3 juin 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a reçu hier soir les ex-rebelles de la CEMA, inquiets après le second coup d'État. 11 morts dans une attaque dans le nord-est de la RDC. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme sur une urgence humanitaire dans le nord-ouest du Nigeria. Le Bénin exige au futur père une attestation de paternité avant la naissance d'un enfant.
Ça permet non seulement de donner un nom à un enfant, de lui donner une identité, mais au-delà de ça, la reconnaissance permet à un enfant de rentrer dans la famille de son géniteur.
Les ministres de la Santé du G7 discutent de partage des vaccins anti-Covid. L'OMS constate une hausse des cas en Afrique. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, déclaré président de transition, a rencontré hier soir la coordination des mouvements de la Zawad, la CMA. Signataire de l'accord de paix en 2015, la CMA s'est dite disposée à accompagner la transition. Les précisions de John Linden.
Cette rencontre a eu lieu alors que la coordination des mouvements de la Zawad s'inquiète des suites du coup de force sur cet accord. Reçu mercredi soir par le colonel Assimi Goïta, un responsable de la CMA a laissé entendre à la fin des discussions qu'il s'agissait d'une bonne rencontre. La CMA a été rassurée par rapport à ses préoccupations et a réitéré sa disponibilité pour accompagner la transition, a-t-il ajouté. La rencontre s'est bien déroulée avec nos frères de la CMA, a rapporté un conseiller du colonel Assimi Goïta, parlant sous le couvert de l'anonymat. Jusqu'ici, la CMA, qui regroupe essentiellement les anciens groupes rebelles Touareg, avait décidé de ne pas accompagner la transition sans une garantie sur ses priorités. Choguel Kokala Maïga, un des plus farouches critiques de l'accord d'Alger, était présent à cette rencontre. Le colonel Assimi Goïta devrait être formellement investi lundi, selon des participants à la réunion.
La recrudescence des violences et de l'insécurité aggrave encore la crise humanitaire et alimentaire dans le nord-ouest du Nigeria, notamment dans l'état de Zamfara, l'un des plus pauvres du pays. C'est l'avertissement émis aujourd'hui par l'ONG Médecins sans frontières, MSF. Jacques Aristide.
Des groupes armés dénommés bandits pullulent dans le nord-ouest du Nigeria. Ils pillent les villages, volent le bétail, se livrent à des enlèvements de masse contre rançon, une insécurité qui contraint des milliers de personnes à quitter leur foyer. Les vies de ces habitants sont minées par la faim, les violences et des maladies qui pourraient être évitées, affirme Frogje Pelsma, la chef de mission de Médecins sans frontières au Nigeria. Ce à quoi nous assistons là-bas est une urgence humanitaire, mais en garde. Cette partie du pays compte près de 700 000 déplacés internes. La majorité vit sous le seuil de pauvreté. Depuis le début de l'année, 10 300 enfants y ont été soignés, notamment pour malnutrition sévère. Dans l'état de Zamfara, où des centaines de jeunes filles ont été enlevées en février dernier, les routes ne sont pas praticables, malgré le déploiement de l'armée il y a 5 ans. Les habitants ont peur de se rendre dans les camps de déplacés ou dans les hôpitaux.
Le nombre d'élèves enlevés dimanche dans une école privée musulmane dans le centre du Nigeria s'élève à 136 selon un bilan des autorités qui peinent à endiguer les kidnappings d'écoliers et d'étudiants dans la région. Depuis l'attaque, des parents des élèves kidnappés attendent assis devant l'école des nouvelles de leurs enfants. Mardi, certains étaient en larmes. Le détenu sénégalais surnommé l'As de l'évasion a été arrêté jeudi dans l'est du pays, 4 jours après son évasion d'une prison de Dakar. Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, le jeune génie, sera transféré à Dakar sous escorte d'une unité d'élite, selon la gendarmerie nationale. La presse locale lui attribue une douzaine d'évasions à l'âge d'environ 32 ans. 9 personnes sont mortes en début de semaine dans l'effondrement d'une mine d'or dans le nord du Ghana. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants, a indiqué jeudi la police. Le dernier accident s'est produit lundi soir dans une mine reculée à Bané, près de la frontière avec le Burkina Faso, pendant une averse, a ajouté la police. L'état de siège ne ralentit pas les violences dans l'est de la RDC. Au moins 11 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque survenue dans la province de l'Ituri. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le baromètre sécuritaire du Kivu parle même de 12 personnes assassinées dans une zone minière dans le territoire de Djougou. Une autorité communale parle de 11 orpailleurs tués par des miliciens du FPIC, un groupe armé local venu prendre le contrôle d'un carré minier. De nombreuses milices et groupes armés sévissent dans l'Ituri et le Nord Kivu voisin, deux provinces sous état de siège et administration militaire depuis le 6 mai dernier. La mesure doit durer 30 jours et pourrait être renouvelée par le président Tshisekedi qui l'avait instauré pour combattre l'insécurité. Au moins 50 civils ont été massacrés dans la nuit de dimanche à lundi dans deux villages de la province de l'Ituri. Médecins sans frontières a dénoncé une attaque d'une extrême violence contre les populations civiles, indiquant avoir pris en charge 12 blessés graves.
14 personnes sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation sur le lac Tanganyika dans l'est de la RDC. Cette embarcation qui partait de la ville d'Uvira pour Baraka a chaviré mardi entre les localités de Baraka et Uvira, selon Madame Malenga Sango, administrateur du territoire d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi à Khartoum afin de réclamer une nouvelle fois justice pour les manifestants tués dans la répression de rassemblements antigouvernementaux ayant conduit en juin 2019 à la chute de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. La répression d'un sit-in organisé devant le quartier général de l'armée avait fait au moins 128 morts, selon des médecins liés au mouvement de protestation. L'OMS a averti jeudi que l'Afrique n'est pas prête pour affronter une troisième vague de la pandémie de coronavirus. Selon l'OMS, les équipements et le personnel de santé essentiels requis pour prendre en charge les patients gravement malades du Covid-19 sont largement insuffisants dans de nombreux pays africains. Les livraisons de vaccins sont quasi à l'arrêt, a mis en garde le docteur Machidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS. Seulement 2% des Africains à ce jour ont reçu au moins une dose. En RDC, le bureau local de l'OMS indique que les cas de Covid-19 ont augmenté fin mai de façon exponentielle à Kinshasa.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les ministres de la Santé des grandes puissances du G7 se réunissent aujourd'hui et demain à Oxford pour discuter du partage des vaccins avec les pays pauvres et des moyens de mieux identifier les risques sanitaires liés aux animaux. Claire Morin-Gibourg.
Nous travaillerons pour que le vaccin soit disponible dans le monde entier, a promis le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock. Selon lui, il s'agit d'une pandémie mondiale et personne n'est à l'abri tant que tout le monde ne le sera pas. Les vaccins arrivent au compte-gouttes dans les pays défavorisés et les pays riches veulent faciliter la vaccination anti-Covid. Les pays du G7 se sont déjà engagés à accroître leur aide au dispositif COVAX. Matt Hancock a souligné que plus d'un demi-milliard de doses du vaccin AstraZeneca ont été livrées dans le monde, en majorité aux pays pauvres. Mais les appels se multiplient pour accélérer le partage. Demain à Londres, la directrice générale du FMI va présenter un plan au coût réduit pour mettre fin à la pandémie en élargissant la vaccination. Ce plan de quelque 50 milliards de dollars a été élaboré avec l'OMS et l'Organisation mondiale du commerce.
La ville de Minneapolis tentait jeudi de rouvrir à la circulation l'intersection où est mort l'Africain-Américain George Floyd. Cette place était devenue un lieu de mémoire, mais aussi une zone d'un endroit régulièrement entaché de violence. Des employés municipaux ont retiré des blocs de béton qui bloquaient les accès au carrefour. Ils ont également installé des panneaux de circulation pour créer un rond-point autour d'une statue d'un énorme point levé qui a été rebaptisé le Square George Floyd. Le président Emmanuel Macron a adressé jeudi ses plus chaleureuses félicitations au nouveau président israélien Isaac Herzog en affirmant son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël. Le travailliste Isaac Herzog, 60 ans, a été élu président mercredi par les députés. La police grecque se dote de canons sonores pour dissuader les migrants au sud et au nord de l'Evros, le fleuve par lequel entrent en Europe de nombreux migrants. Décision prise à la suite de l'afflux de migrants survenus en février 2020, lorsque le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé qu'il laisserait passer les migrants désireux de se rendre dans l'Union européenne. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique, nous retrouvons ce soir Claire Morégibourg pour la Minute Éco.
En Guinée, Total, la grande compagnie pétrolière française, va investir 50 millions de dollars pour moderniser ses stations-service. C'est ce qu'a annoncé son directeur Afrique Marketing et Services qui a rencontré le premier ministre guinéen Kassori Fofana hier. Selon Financial Afrique, M. Fofana a encouragé Total à développer des projets d'exploration et de production pétrolière pour accélérer l'exploration de ces blocs offshore. Le projet LIR-Niger a été lancé hier à Niamey par le président Mohamed Bazoum et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce projet de 75 milliards de francs CFA, échelonné sur 6 ans, veut améliorer la qualité de l'enseignement au Niger. 2 millions d'enfants et plus de 55 000 enseignants vont y avoir accès dans les régions de Diffa, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zinder. Selon les données de la FAO, les prix alimentaires mondiaux sont en forte hausse et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis septembre 2011, alors que la production céréalière mondiale est en passe d'atteindre un nouveau record. Les prix des huiles végétales, du sucre et des céréales ont flambé.
Nous passons directement à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. La sélection féminine de handball d'Algérie ne participera pas à la 24e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de handball, prévue au Cameroun du 8 au 18 juin prochain. C'est ce qu'annonce la Confédération africaine de handball. Les Algériens disent ne pas être prêts parce qu'il manque de compétition depuis un certain temps. L'équipe d'Algérie était logée dans le groupe C avec le champion en titre angolais, le Cap-Vert et le Congo. Les formations qui atteindront les demi-finales de ce tournoi se qualifieront pour le mondial de handball qui aura lieu en Espagne du 2 au 19 décembre 2021. Les Jeux olympiques auront lieu à 100%, assure la présidente du comité d'organisation Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, malgré une opposition persistante du public japonais. À 50 jours de l'événement, Mme Hashimoto s'est déclarée convaincue que les JO se dérouleront comme prévu du 23 juillet au 8 août. Elle réaffirme que ces JO pourraient être les premiers de l'histoire à se dérouler à huis clos si l'exclusion des spectateurs locaux est jugée nécessaire pour prévenir des infections. Les organisateurs ont déjà décidé d'interdire tout public. Utah, Philadelphie et Atlanta avancent en demi-finale de conférence. Bagassi Koura.
Oui, Utah s'est qualifié pour les demi-finales de conférence Ouest aux dépens de Memphis, battu 4-1 dans la série. Après la défaite inaugurale face aux Grizzlies, Utah a su se ressaisir et cela a coïncidé avec le retour de blessure du leader offensif Donovan Mitchell, auteur de 30 points, 10 passes et 6 rebonds. Utah est la meilleure équipe de saison régulière et attend désormais de connaître son prochain adversaire qui pourrait être Dallas, repassé devant les Clippers 3-2 grâce à sa victoire 105-100. Utah a été imité à l'Est par Philadelphie qui a écarté Washington 4-1 également. Philly a vaincu les Wizards 129-112 en l'absence du Camerounais Joel Embiid qui souffre d'une déchirure au genou droit. Blessure contractée lundi lors du match numéro 4 en demi-finale donc de conférence Est. Philadelphie affrontera Atlanta. Atlanta tombeur de New York 103-89 lors du match numéro 5 pour remporter la série 4-1.
Merci Bagassi. Des nouvelles du tennis avec le tournoi de Roland-Garros qui se poursuit. Après le forfait de la numéro 2 mondiale Naomi Osaka, l'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale et lauréate de Roland-Garros en 2019, a abandonné au deuxième tour du tournoi parisien, souffrant du bas du dos alors qu'elle était menée 6-1, 2-2 par la Polonaise Magda Linet.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le CICR indique que 540 000 enfants sont séparés de leur famille depuis l'éruption du volcan Nyiragongo, avec les déplacements de la population fuyant la ville de Goma et ses environs. La situation humanitaire reste préoccupante. Eddie Isango a joint à Goma le coordonnateur adjoint du comité international de la Croix-Rouge, Raphaël Teno.
Une grande partie de la population reste déplacée, notamment dans les pourtours du lac, sites principaux de Sake, de Minova, mais également au nord-est vers Rutshuru, au nord-ouest vers Masisi, encore également un peu au Rwanda. Mais une grande partie de la population est également en train de revenir, ou est déjà revenue sur Goma. Ils sont revenus parfois, même souvent, dans une zone qui reste instable. La situation sismique et volcanique restant incertaine, même si on note une certaine amélioration ces derniers jours. Beaucoup sont revenus pour retrouver leur maison endommagée et parfois complètement détruite. Les besoins qui prévalaient juste après l'éruption réapparaissent ou subsistent, notamment l'endommagement, la destruction de beaucoup de services de base, principalement les services d'eau. Des milliers de personnes sont encore privées d'eau en ville de Goma. Cela amène des conséquences évidemment directes, mais aussi indirectes, comme la prévalence de maladies hydriques, telles que des possibles cas de choléra. C'est un risque que court la population sans eau potable et sans système d'assainissement.
On parle d'enfants perdus. Quelle est la situation exacte?
Il y a de nombreuses familles qui ont signalé la perte de contact avec des membres de leur famille, notamment avec des enfants. Plusieurs structures étatiques et principalement la Croix-Rouge congolaise ont reçu de nombreux appels de parents qui recherchent leurs enfants. Le comité international de la Croix-Rouge soutient évidemment les autorités, principalement la Croix-Rouge congolaise, dont la recherche, la réunification de ces enfants. Elle prend également en charge les enfants non accompagnés en attendant que leurs parents soient localisés. Ce problème va continuer de subsister tant que les mouvements de population continuent. Et il est très important de bien centraliser toutes les demandes vers la Croix-Rouge ou les autorités compétentes. Je n'ai plus le chiffre exact, mais je sais qu'une semaine après l'éruption et après le déplacement, il y avait déjà plus de 1000 personnes qui avaient perdu le contact avec la famille. Et ce bilan, évidemment, varie. Il diminue au gré des réunifications qui, heureusement, fonctionnent. Le système fonctionne assez bien.
Raphaël Teno, coordonnateur adjoint du comité international de la Croix-Rouge. Au Cameroun, le mouvement citoyen Les Franquistes pour l'unité nationale et la paix, constitué de jeunes sympathisants, bat campagne actuellement pour une candidature de Franck Emmanuel Biya à la prochaine élection présidentielle de 2025. Un tel scénario est vivement critiqué par certains Camerounais. Ils estiment que le président Paul Biya ne devrait pas se faire succéder par son fils aîné. Reportage d'Emmanuel Juntap.
Dans la salle, quelques responsables du mouvement citoyen Les Franquistes pour l'unité nationale et la paix. Ils brandissent fièrement des gadgets à l'effigie du fils aîné du président Paul Biya, alors qu'ils assistent à une consultation tenue en toute discrétion par leur coordonnateur national.
Si le chef de l'État pense déjà à la transition générationnelle, que sera le Cameroun après lui? Et fort de cela, et bien avant également, nous avons identifié notre champion, Franck-Emmanuel Biya, qui pour nous est le candidat idéal pour cette succession générationnelle au sommet de l'État.
Les activités du mouvement des franquistes ont été lancées en décembre dernier. Ses responsables se prévalent même d'une implantation à l'échelle nationale, en plus d'être très actifs sur les réseaux sociaux.
Les gens s'intéressent, les gens nous contactent, les gens tombent parfois à tout hasard sur nos plateformes, s'informent par ces plateformes-là, s'y intéressent et puis adhèrent au mouvement.
Franck Biya fait aussi la une des grands titres internationaux. Mais le concerné, âgé de 49 ans, n'a jamais officiellement confirmé ou infirmé sa proximité avec ce mouvement.
Pour le moment, nous n'avons pas besoin qu'il s'affiche, nous n'avons pas besoin qu'il se présente. C'est stratégique parce que nous faisons un appel du peuple. Nous avons déposé un dossier de légalisation qui suit son cours au niveau des instances légales compétentes.
Bolbia est au pouvoir depuis 1982. Des jeunes Camerounais comme celui-ci rêvent d'un vrai changement.
Ce n'est pas bien pour notre pays de présenter une image de successorial, parce que ça fait royaume, même si l'individu, le monsieur en question a tous les droits de rester. Donc le reste, le parcours du personnage sur le plan professionnel, académique, est très flou et ça ne donne aucune garantie parce qu'on est dans une impasse, il faut un réel redressement.
Depuis l'an dernier, l'opposant Maurice Kamto, arrivé deuxième à l'élection présidentielle en 2018, dénonce un projet de transition politique de gré à gré à la tête du Cameroun. Des allégations que les hauts responsables du RDPC, le parti au pouvoir, ont démenties. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Bénin, plus rien ne sera comme avant dans la déclaration de naissance. Il est désormais exigé au futur père l'attestation de paternité avant la naissance d'un enfant. L'idée est de sécuriser les naissances et de prévenir de nombreuses difficultés liées à l'établissement de l'acte de naissance et au refus de paternité. Les précisions sur cette loi qui met en branle les réseaux sociaux au Bénin avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Une reconnaissance sur l'honneur, un acte de reconnaissance de paternité quand on n'est pas dans la ligne du mariage. Voilà établi les préalables pour les parents, particulièrement pour le père d'un enfant à naître. Cyril Goubedji est le gestionnaire mandataire de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Il explique que ce n'est pas en soi une sanction, mais une volonté manifeste du législateur de protéger l'enfant.
La reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale du l'émettant, acte par lequel il déclare être le père de cet enfant.
La disposition n'est pas nouvelle. Le Code de l'enfant voté en 2015 l'a clairement défini dans ses articles 141 et 148. Les parents se réjouissent que cette loi soit remise sur la table pour mettre les pères devant leurs responsabilités.
J'ai trop apprécié et ça me va droit au cœur parce que une grossesse qui s'avantage comme ça, c'est pas bien.
C'est très bien, c'est bien, c'est très bien. Le gouvernement a fait sortir une loi très bonne. Je suis très content même de lui.
Ça permet non seulement de donner un nom à un enfant, de lui donner une identité, mais au-delà de ça, la reconnaissance permet à un enfant de rentrer dans la famille de son géniteur.
Mais pour d'autres, bien que l'idée soit bonne, cette loi comporte de nombreuses faiblesses et pourrait engendrer bien plus de conflits qu'elle ne pourrait en régler.
Moi, je suis contre cette loi qui donne à la femme trop de pouvoir. Si une fille impose à un homme une grossesse qui n'est pas la sienne, si parce que j'ai les moyens, une fille vient m'imposer une grossesse, je fais comment? Le gouvernement a pensé à ça? Si après naissance, je fais des tests qui prouvent que je ne suis pas le père, l'enfant qu'on veut coûte coûte protéger se retrouve ou pas en danger? Je crois qu'il y a des subtilités de garde-fou qu'il faudra mettre si la finalité de cette loi est de protéger les enfants.
Moi, je trouve que c'est à plus de force que de faiblesse. Sérieusement, quoi. Il faut le repenser autrement, sinon c'est maintenant que de nombreux enfants seront sans père et auront difficilement un acte de naissance.
Annabelle Kindi est sage-femme en milieu rural. Pour avoir vu des femmes enceintes déboussolées, solitaires, elle pense que cette loi est la solution qui permettra de régler de nombreuses situations inconfortables.
Je dirais aux jeunes de respecter cette nouvelle loi parce que pour éviter beaucoup de choses, et il ne faut pas engrosser sa femme ou bien une fille et la laisser seule face aux procédures de délivrance date de naissance. Il faut assumer maintenant la responsabilité du père dès la grossesse jusqu'à l'accouchement.
Et elle n'est pas la seule. Pour Claver N. Point, qui a perdu ses trois enfants parce qu'un test ADN a fini par lui donner la pire nouvelle qu'un père peut recevoir après plus de 10 ans de paternité, la loi mettrait certaines femmes indélicates à leur place.
Dans la vie actuelle maintenant, là, il y a des gens que, bon, après 30 ans ou bien 50 ans, on te dit que, bon, la femme dit que c'est pas ton enfant ou bien ça amène des problèmes que, bon, on voit que maintenant, ce que le gouvernement a amené, c'est bon. Parce que déjà, si c'est pas son enfant, il n'y aura pas d'autorisation d'aller prendre une certification. cas de, selon moi, c'est une bonne chose.
Au nombre des difficultés que pourrait rencontrer l'application de cette loi, il y a les obligations financières. La prise de la déclaration de reconnaissance de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle qu'il faudra établir après avoir obtenu son acte de naissance sécurisé. Il faudra débourser au moins la somme de 3 800 francs CFA. C'est l'une des raisons pour lesquelles la loi fait jaser au Bénin. De Cotonou, Jeanette Cloadonné pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden lance une campagne nationale d'un mois pour faire vacciner 70% d'adultes avant la fête nationale le 4 juillet. Le point avec Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est signé Jacques Aristide.
Avec 170 millions de personnes déjà vaccinées, la vie reprend graduellement son cours normal en Amérique, mais le pays veut faire davantage. Avec un programme de vaccination pour atteindre 70% d'Américains adultes avant le jour de l'indépendance. Le président américain Joe Biden.
If you get a shot this week,
si vous recevez une dose cette semaine, vous serez complètement vacciné avant le 4 juillet, avant la semaine du 4 juillet, et vous pourrez célébrer la fête de l'indépendance sans peur ni inquiétude.
Mercredi, le président Joe Biden a fait part d'une série d'initiatives, dont des services gratuits de garde d'enfants pour les parents qui se font vacciner, des trajets gratuits vers les lieux de vaccination, le recours aux salons de coiffure et de beauté pour aider à la sensibilisation et de quoi encourager les entreprises à offrir des avantages à leurs employés pour se faire vacciner.
De la bière gratuite pour tout le monde âgé de 21 ans ou plus pour célébrer l'indépendance du virus.
Alors que les Américains bénéficient de multiples avantages pour recevoir leur vaccin gratuit, une étude du Duke Global Health Innovation Center indique que les États-Unis sont en passe de se retrouver avec des centaines de millions de doses de vaccins excédentaires d'ici juillet. Le docteur Anand Parekh est le conseiller médical en chef du Bipartisan Policy Center.
Nous nous sommes engagés à administrer 600 millions de doses dans ce pays. 366 millions ont déjà été distribués. Nous verrons s'il y a un stock excédentaire au cours des prochains mois. Pour ce qui est des 80 millions, principalement d'AstraZeneca, à distribuer au reste du monde, nous devons nous assurer que ces doses soient fournies rapidement et équitablement.
L'administration Biden est appelée de tous côtés à dire quand et comment elle va partager les doses excédentaires. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
Nous allons nous concerter sur l'équité, sur la distribution équitable des vaccins. Nous allons nous concentrer sur la science. Nous travaillerons en coordination avec COVAX.
COVAX est le mécanisme des Nations Unies qui veut garantir l'accès aux vaccins pour les pays à faible revenu.
Le COVAX AMC peut nous aider à vaincre ensemble ce virus.
Lors d'un sommet virtuel tenu mercredi par le Japon et Gavi, la Vaccine Alliance a obtenu un financement supplémentaire de 2,4 milliards de dollars pour COVAX, portant le total à près de 9,6 milliards de dollars. Les États-Unis y ont pris part, mais n'ont pas annoncé de contribution supplémentaire. La vice-présidente américaine Kamala Harris.
Les États-Unis ont contribué 2 milliards de dollars à Gavi pour COVAX et nous avons promis 2 milliards de dollars supplémentaires jusqu'en 2022.
Washington a annoncé jeudi que 75% des 80 millions de doses de vaccins anti-Covid promises par les États-Unis à des pays étrangers d'ici fin juin seraient distribuées via COVAX. La Maison-Blanche a également détaillé les pays auxquels les premières 25 millions de doses seront données. Près de 19 millions passeront par COVAX, 6 millions pour l'Amérique du Sud et centrale, 7 millions pour l'Asie et 5 millions pour l'Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Lionel Manila Gahima, Joselle Morissin et Georges Léonard Sagno. Eric Manila Kiza a été à la présentation. Ici par le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.